Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, et c'est à nouveau Jeudi Noir. On s'était vu, entendu il y a deux semaines pour un marathon du livre. On continue, puisque Jean-Mathias est par Mons et par Vaud. Donc c'est Michel avec José, là au micro actuellement, pour vous présenter un maximum de livres en peu de temps. Donc on appelle ça marathon, mais en fait c'est pas du tout un marathon, ça n'a rien à voir. Le marathon c'est le contraire de tout ça. Mais qui s'en fout ? Nous, vous, alors on continue. Donc, le premier livre que je vais vous présenter, c'est de Robin Hobb, en fait sous le pseudonyme de Megan Lindholm. Michel, vous avez parlé de l'assassin royal de Robin Hobb la semaine dernière, et on s'est dit que comme cette autrice n'avait pas assez de millions de dollars, on allait présenter un nouveau livre sur Radio Libertaire, comme ça elle fera peut-être une vente en plus. Mais c'est surtout parce qu'elle a écrit en 1992 un roman de SF, de science-fiction, qui a été traduit en France en 2006. Et c'est le seul roman, je crois, de science-fiction qu'elle a écrit. Elle a plutôt fait beaucoup de fantasy en particulier. Donc, moi, j'ai adoré vraiment ce roman qui s'appelle Alien Earth, la Terre étrangère, hein, Alien Earth, ou la Terre alien, ça serait plus proche en gardant le terme original. Donc, on se retrouve en l'an 2500, je sais pas quoi, où la planète Terre est très polluée, ça alors, et est devenue invivable, ou presque. En tout cas, c'est une race alien insectoïde qui prétend qu'elle est invivable et qui évacue la planète Terre pour emmener les terriens et les terriennes vers, je ne sais plus, Castor et Pollux, je ne sais plus exactement quelle planète, un truc comme ça. Et elle évacue les humains, les humaines, pour les sauver, selon eux. Et ils leur apprennent, dès le plus jeune âge, pour les nouvelles générations, une gestion très 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 rationnelle de l'environnement. Ce sont des insectes géants écologistes, hein, rien à voir avec Starship Trooper. Par exemple, les forêts qui sont plantées, chaque graine doit donner un autre végétal, tout est au cordeau, tout carré, ils ne supportent pas les trucs qui dépassent. Et la race humaine évolue en fonction de ces critères que leur donne cette race insectoïde. Et là, la musique que j'avais choisie juste avant, c'était les Bikini Kill avec le morceau Alien She. Donc, c'est-à-dire l'alien femelle, l'alien femme, voilà. Puisque un des personnages principaux de Alien Earth, de Megan Lindholm, c'est un vaisseau spatial, plutôt présenté comme de race femelle, puisque ça serait un animal intelligent. Puis je ne vais pas tout vous dévoiler, mais c'est peut-être plus qu'un animal en fait, et qui sert de vaisseau spatial pour traverser des longues distances, qui s'appelle Evangeline. Et à l'intérieur de ce vaisseau spatial, il y a des humains, il y a un insectoïde, qui est le co-capitaine du navire, on va dire, un capitaine humain, et puis un passager clandestin aussi. Et tout ça va les amener vers la planète Terre. Est-ce qu'elle était vraiment, vraiment, vraiment inhabitable ? Quel était vraiment le but de ces insectoïdes ? C'est intelligent, c'est super bien écrit, c'est hyper original. Hein. Je lis pas mal de SF et vraiment ce bouquin-là sort du lot, largement. Donc voilà, Robin Hobb, Megan Lindholm, Alien Earth.
Yeah. Force et Jeudi Noir 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit pour notre course d'endurance du livre, notre marathon du livre, notre jogging du livre, notre noyade du livre, notre je sais pas quoi. Et là, c'est Michel qui vous parle et je vais vous reparler d'une autrice qu'on avait abordée la semaine dernière, N.K. Jemisin. Vous trouverez toutes les références sur Gurdulu, Jeudi Noir, Archive. Et cette fois-ci, la dernière fois, je vous avais parlé de la Terre fracturée, donc un roman en trois parties, enfin en trois volumes, absolument génial. N'ayons pas peur des mots. Et là, je voudrais vous dire deux, trois mots sur un livre qui vient d'être traduit. Je ne vais pas pouvoir trop spoiler parce que je ne l'ai pas fini, donc rassurez-vous. Mais le début est vraiment grandiose et je pense que comme ça vient d'être traduit, ça mérite que vous y jetiez un œil. Et ça part d'une idée qu'on est sans doute de plus ou moins de nombreux à avoir eu ou qu'on trouve assez souvent dans les trucs de SF, c'est qu'est-ce qui se passe quand une entité construite par les humains prend conscience d'elle-même. Et alors on trouve ça sur des ordinateurs, on trouve ça sur l'intelligence artificielle. On trouve ça aussi parfois dans certains romans avec l'idée que à force de croire en quelque chose, la chose acquiert une espèce d'existence. Donc là vous aurez tout un truc sur les dieux. Mais vous avez aussi parfois la nature qui va prendre conscience d'elle-même. Et là, qu'est-ce qui se passe si en fait les villes développaient une personnalité? Et comment est-ce que ça pourrait se passer et comment est-ce qu'elle pourrait en quelque sorte acquérir cette personnalité. Et donc alors dès le début du roman, là je pense pas trop en dévoiler trop vite, vous verrez que justement ce processus où la ville devient elle-même n'est pas un processus en quelque sorte simple dans le roman et va rencontrer une opposition avec un antagoniste très très fort qui cherche à justement détruire les villes et à les empêcher de prendre conscience d'elles-mêmes. Alors pourquoi Mystère et boule de gomme? J'ai pas été assez loin dans le livre pour vous le dire. Mais voilà, donc étant donné l'autrice dont on vous a déjà parlé, je pense que ça vaut le coup de plonger dedans un peu les yeux fermés. Voilà, donc N.K. Jemisin, Mégapole.
C'est toujours Jeudi Noir sur Radio Libertaire 89.4 de la Fédération Anarchiste. Donc le morceau d'avant pour la chronique du N.K. Jemisin Mégapole, c'était Tire au feu d'ol, nos chouchous du début des années 90 avec le morceau Les Villes, tout à fait en rapport. Et là on vient d'écouter Danny Kendrick avec Robots of Destruction, les robots de la destruction. Alors là aussi c'est vraiment tout à fait en rapport puisque je vais vous présenter le roman TikTok, écrit en 1983 par John Thomas Sladek, J.T. Sladek, donc un Américain encore, et encore de la science-fiction. Étonnamment. Alors, si vous connaissez un peu la science-fiction, vous devez connaître les lois de la robotique d'Asimov. Il y a trois lois principales qu'il a modifiées avec le temps, mais en tout cas, la base c'était en gros qu'un humain ne pouvait pas faire de, un robot n'avait pas le droit de faire du mal à un humain. Il devait obéir et il devait protéger sa propre existence tant que ça ne créait pas de problème envers ses maîtres humains. Sauf que là, TikTok, il a un petit défaut, sûrement qu'il a été un petit peu trop exploité, on lui a fait un peu trop de mal et donc il devient malveillant. Donc c'était censé être un robot serviteur, mais celui-là adore tuer. Il adore ça. Donc ça devient un robot sociopathe. Mais comme il est en plus hyper intelligent, il arrive à cacher ses meurtres, ses crimes, et il se libère de ses lois d'Asimov, qu'il considère comme un surmoi dont il faut se débarrasser pour devenir un surrobot et atteindre les sommets. Après, je ne peux pas trop vous dévoiler, mais franchement, c'est hyper drôle. Sladek, de toute façon, c'est un écrivain très très bon dans tout ce qui est satire, pastiche de SF. Donc c'est à la fois très drôle, très profond, hyper bien écrit. TikTok par John Sladek.
Vous venez d'entendre God is my co-pilot, donc un groupe des années 90 évidemment, pour un morceau qui s'appelle Southwestern Jazz. Et vous êtes sur Jeudi Noir, sur Radio Libertaire, pardon, 89.4, c'est l'émission Jeudi Noir. Et là, je vais vous présenter donc rapidement un petit roman de Jean-Patrick Manchet, un auteur phare du roman noir français des années 70. C'est un peu lui qui a renouvelé le genre en réintroduisant finalement des vieux principes du roman noir américain des années 50, en particulier une espèce de behaviorisme, c'est-à-dire qu'on ne décrit pas les états intérieurs des personnages. Et alors, je pense que bon, Manchet, si vous aimez le roman noir, vous pouvez lire à peu près n'importe lequel. Ils sont excellents. Si vous aimez bien le côté anarchiste, vous pouvez aller lire Nada. Et moi, je voulais vous parler d'un de ses plus célèbres, qui s'intitule Le Petit Bleu de la Côte Ouest, qui a donné Trois Hommes à Abattre dans les années 70-80. Et c'est un roman donc, qui décrit l'histoire de Georges Gerfaut. Et et pourquoi Georges Gerfaud va finalement se retrouver, malgré lui, entraîné dans un monde de violence et de meurtre. Et je voudrais juste vous lire peut-être un petit peu le début. Et il arrivait parfois ce qui arrive à présent. Georges Gerfaud est en train de rouler sur le boulevard périphérique extérieur. Il est entré Porte d'Ivry. Il est 2h30 ou peut-être 3h15 du matin. Je passe quelques lignes. Georges Gerfaud est un homme de moins de 40 ans. Sa voiture est une Mercedes gris acier. Le cuir des sièges est à cajou et de même l'ensemble des décorations intérieures de l'automobile. L'intérieur de Georges Gerfaud est sombre et confus. On y distingue vaguement des idées de gauche. Au tableau de bord de la voiture, au-dessus des cadrans, se voit une petite plaque métallique mate où sont gravés le nom de Georges, son adresse, son groupe sanguin et une représentation merdeuse de Saint-Christophe. La raison pour laquelle Georges file ainsi sur le périphérique avec des réflexes diminués parce qu'il a bu, et en écoutant cette musique-là, donc du jazz, de la côte ouest, il faut la chercher surtout dans la place de Georges dans les rapports de production. Le fait que Georges a tué au moins 2 hommes au cours de l'année n'entre pas en ligne de compte. Ce qui arrive à présent arrivait parfois auparavant. Donc, je trouve que c'est un style qui est limpide, qui est très très dépouillé, très sobre. Et donc moi je vous le recommande. Jean-Patrick Manchette, vous voulez avoir les romans noirs, et là c'était Le Petit Bleu de la Côte Ouest.
Radio Libertaire 89.4, c'est toujours Jeudi Noir, on vous présente plein de livres. Donc là, on vient d'entendre le groupe de Lyon qui s'appelle Faux Départ avec le morceau Cthulhu. Alors dans Faux Départ, juste, il y a un des membres qui anime l'émission SAV sur Radio Canu. SAV qui nous inspire beaucoup ici pour découvrir plein de groupes super sympas. Donc voilà, super émission SAV sur Radio Canu que je vous conseille. Voilà, tout ça pour vous parler de Matt Ruff. Matt Ruff, c'est l'auteur de Lovecraft Country. Lovecraft Country est assez connu là depuis quelques temps puisqu'il y a une série télé tirée de ce bouquin. Alors, Lovecraft Country, je vais vite, c'est Atticus Turner, un jeune noir fan de science-fiction, de fantasy et d'horreur, dans les années 50 aux États-Unis, donc sous les lois Jim Crow, sous la ségrégation, et il se retrouve embarqué avec sa famille dans une aventure de sorcellerie avec des sociétés secrètes, des pouvoirs, des monstres, voilà. Alors le titre Lovecraft Country, il y en a plein qui l'ont critiqué en disant que c'était un petit peu Lovecraft, c'était pour attirer le chaland. Non, Lovecraft c'est pour le côté, pas le côté horreur, mais pour le côté racisme. Hein. Lovecraft était quand même un spécialiste dans ce domaine aussi. Donc, toutes ces aventures un peu horrifiques, déjà super bien écrites, dans un univers assez original, essayent peut-être de démontrer, en tout cas, que ces monstres qu'on peut voir, cette sorcellerie et tout, est-ce que c'est vraiment plus effrayant que le racisme et la ségrégation aux États-Unis dans les années 50, parce que c'est vraiment ce qui fait le plus peur dans tout ça. Et c'est pour ça qu'un gars comme Jordan Peele, hein, le réalisateur de Get Out ou de Us, a été coproducteur de la série qui a été tirée de ce bouquin, super série d'ailleurs, qui reprend les thèmes principaux. Et voilà. Et Matt Ruff est un écrivain blanc, étonnamment, je ne pensais pas du tout, vu la qualité du machin. Voilà, la suite.
Oh,
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire et vous n'êtes pas sur Epsilonia. Vous êtes sur Jeudi Noir et on vous présente des bouquins en alternant avec de la musique. Là, vous venez d'entendre une partie d'un morceau de Kill Your Boyfriend qui s'intitule Ulrich. Alors pourquoi Ulrich ? Parce que je vais vous parler d'un de mes romans préférés, écrit par Robert Musil, un Autrichien mort en 1942, et alors c'est un des très très grands romans du XXe siècle. C'est un petit peu l'équivalent autrichien de La Recherche du Temps Perdu ou l'équivalent autrichien de romans comme Ulysse de James Joyce. Donc c'est pas forcément facile d'accès, je vous l'accorde. Ensuite c'est très drôle. Et je vous raconte très très brièvement le début parce que de toute façon il n'y a pas forcément beaucoup d'histoires. C'est d'un homme qui s'appelle Ulrich, justement, Ulrich. Et Ulrich, qu'est-ce qui lui arrive ? Ben, il a essayé 3 fois d'être un grand homme, en étant dans les mathématiques, dans l'armée, dans l'ingénierie. Et il essaie d'être un génie. Et un jour, un cheval de course est qualifié de génial dans la presse. Et donc, il en déduit que maintenant, tout le monde peut être génial, puisque même les chevaux de course y arrivent. Et il se met en vacances de la vie pendant 1 an pour essayer de trouver le meilleur usage de ses capacités. Et au même moment, l'Autriche s'aperçoit avec horreur que l'Allemagne va fêter les 30 ans de règne de son souverain, alors que le souverain autrichien règne depuis 70 ans sur le trône. Et donc ils essaient de mettre en place une action parallèle visant à montrer la grandeur de l'Autriche par rapport à la petitesse de l'Allemagne. Bon. Et tout ça c'est en 1913, un an avant que la guerre mondiale éclate. Et tout va dérailler, évidemment. Donc, alors c'est un roman qui est, faut aimer les conversations, les joutes verbales, parce que ça pourrait être aussi un peu comparé à La Montagne Magique de Thomas Mann, où vous avez beaucoup d'histoires, beaucoup de réflexions, beaucoup de théories. Mais comme je vous l'ai dit, quand on est bien rentré dedans, c'est drôle. Donc voilà, moi c'est quelque chose que j'adore. J'avoue que c'est pas forcément facile d'entrer, mais je pense que si vous aimez ce genre de truc, ça peut valoir l'effort.
Super morceau des Cafards, les Cafards avec le morceau Le Dernier sur Radio Libertaire 89.4. C'est toujours l'émission Jeudi Noir. On vous présente plein de bouquins. Donc Le Dernier, puisque là je vais vous présenter Hunger Games de Suzanne Collins. encore une américaine. Hunger Games, archi connu, vendu à des millions d'exemplaires. C'est un peu comme Robin Hood, on fait de la pub pour qu'elle vende un exemplaire de plus. Donc c'est une trilogie au départ, voire tétralogie, puisqu'il y a eu un tome qui a été écrit après, qui raconte le début, les préquels, comme on dit. Donc c'est Hunger Games, ça veut dire les jeux de la faim. Donc les jeux de la faim, les jeux du cirque de la faim, la famine, ont été mis en place dans le pays de Panem, en Amérique du Nord. C'est un peu les États-Unis du futur, une dystopie bien sûr. Et chaque année, il y a un garçon et une fille entre 12 et 18 ans qui est tiré au sort pour représenter un des 12 districts qui ont osé dans le temps se rebeller contre l'autorité centrale. Et là, ils forment une battle royale. Alors battle royale, c'est en gros, on met tout le monde sur un terrain de jeu du cirque et il doit en rester qu'un. Le dernier ou la dernière. Et là, Katniss est tirée au sort. Non, on n'est pas tirée au sort, c'est sa petite sœur qui est tirée au sort. Elle la remplace. Elle a 16 ans, c'est la narratrice de l'histoire. Et sur trois tomes, ça parle de la rébellion contre l'autorité centrale. Alors, certains ont dit que ça pompait un peu Battle Royale de Takami, le roman japonais écrit avant, que je trouvais nullissime. Insupportable. Running Man aussi de Stephen King en 82, qui est celui-là est assez rigolo. Mais non, c'est vraiment pour moi complètement original et vraiment meilleur que le Battle Royale de Takami. Et pour un roman jeunesse, parce que ça peut être aussi, c'est aussi un roman jeunesse, c'est plutôt une saine lecture en ce qui concerne la rébellion à l'autorité. Susan Collins, Hunger Games.
Vous écoutez Jeudi Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Et donc on vous présente plein de bouquins. Et là, vous venez d'entendre, mais tu t'es pas trompé de morceau, José ?
Si, je me suis trompé de morceau.
Donc oui, on voulait vous passer un autre morceau. Et là, on vous a passé Alarme, le temps qui saigne. Donc c'est pas grave, ça collera bien finalement avec le prochain bouquin que José va vous présenter, parce qu'il y a un décalage temporel. Et donc, moi, je vais vous parler d'un autre truc. Voilà, vous aimez le 20e siècle, vous aimez les communistes, vous aimez l'aventure, vous aimez les espions, vous aimez les voyages autour du monde, ben, j'ai un roman qui est fait pour vous. Enfin, c'est même pas un roman, c'est une espèce d'autofiction de Yann Valtin qui s'appelle Sans patrie ni frontières et qui raconte les aventures d'un membre du Comintern dans l'Europe des années 30. Et donc, alors, c'est plus ou moins réaliste, parce qu'il a quand même, ainsi, c'est très réaliste, c'est des choses que l'auteur avait vécues, en partie, et qu'il a aussi, comment dire, en partie romancé. Et donc, voilà, moi, c'est un très très bon bouquin. Ça peut vous plonger, ben, ça vous donne une espèce de vision un peu désabusée de la Troisième Internationale ou du Comintern, c'est-à-dire du mouvement pour le communisme international. Je vous lis rapidement un petit extrait en quatrième de couverture. Donc, Yann Valtine, Sans Patrie ni Frontières. Les années avaient profondément transformé le Comintern. L'avant-garde révolutionnaire n'était plus maintenant qu'une dague empoisonnée dans les mains de Staline. Parfois, me maudissant de ma lâcheté, à croire que je voulais encore ranimer la flamme de ma foi, je me repassais divers épisodes de ma vie militante. À 18 ans, j'avais eu l'impression d'être un géant. À 21 ans, c'était encore plus simple. Il suffisait de lancer des grenades à la gueule de la contre-révolution. À 22, j'avais fait le tour du monde au service du Comintern, maigre, affamé, féroce. Et j'en étais fier. À 29, les polices d'une demi-douzaine de pays européens me recherchaient en tant que principal agitateur des fronts de mer du Comintern. À 31, j'œuvrais à transformer les prisons hitlériennes en écoles du prolétariat internationaliste. Et maintenant, à 33 ans, je me posais cette question. Tout cela n'a-t-il jamais été que mensonge, imposture et utopie sanglante? Aucun homme ne peut se débarrasser de son passé. Voilà, donc ça, moi je vous le conseille aussi, c'est bien. I'm more important in the USA than a spy for the FBI. I'm trained to meet the criminal elite.
I gave on the slip, cause I'm totally hip to that modern counter espionage. I spy. I got a bulletproof car and a secret star and a ring with x-ray eyes. I wear Spanish boots, Brooks Brothers.
Radio Libertaire 89.4, Fédération Anarchiste, Jeudi Noir qui continue. Donc on vous a passé à l'instant un morceau de Beat Happening qui s'appelle I Spy, j'espionne, puisque ça avait un rapport avec le livre d'avant, chroniqué par Michel de Yann Valtine, Sans Patrie ni Frontières. Mais c'était fait exprès, puisque je vous ai passé avant le morceau d'Alarme qui s'appelle Le Temps qui saigne, puisqu'on va parler du déchronologue de Stéphane...
C'est un mytho.
Stéphane Beauverger, tout est calculé, rien n'est improvisé. Donc Stéphane Beauverger, oh tiens, un auteur français, alors, on n'avait pas fait encore. Le déchronologue, ah si, il y avait Manchette avant, c'est vrai, deux dans la même émission, c'est énorme. Ça devient presque patriotique. Donc Stéphane Beauverger, le déchronologue a été créé en 2009. Et ça raconte l'histoire très curieuse du capitaine Henri Villon, capitaine du vaisseau, le déchronologue, du bateau, hein, puisque ça se passe au XVIIe siècle dans les mers des Caraïbes. Et c'est un bateau pirate qui navigue sur une mer, mais pas une mer classique, puisqu'il y a plein d'anomalies temporelles, des accidents temporels. Et il y a le futur ou le passé qui peut surgir au milieu de la mer. Le déchronologue est bien armé contre ces déformations temporelles, puisque ses canons tirent du temps. Et oui, il peut avancer, contrer le temps qui passe ou qui dépasse. Voilà. Et puis, de temps en temps, il trouve des objets, des maravillosas, des objets venus du futur. Ça, c'est très recherché pour les pirates. Donc, c'est un récit qui est écrit de manière non chronologique totale, comme les morceaux qu'on a passés exprès à l'envers. C'est de l'aventure, KPP, Uchronie, c'est excellent, c'est passionnant. Une fois qu'on rentre dedans, c'est dur d'en sortir. Magnifique, le déchronologue de Stéphane Beauverger.
Starving gods change upon the wheels of love. Your gray eyes are enough for now. Together we'll support. Now we will go all up there. Your gray eyes is enough. Now we will go all up there. It's enough. Starving gods change upon the wheels of love. His eyes are enough for now. Together we'll support. Now we will go all up there. The gray's eyes, it's enough. Everything is gray today. The color of
vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit. Et donc, vous venez d'entendre un petit morceau de Gods of Kermer, Starving Gods, donc les dieux qui meurent de faim. C'est un groupe suisse des années 90, encore les meilleures années du monde, et de toute l'histoire entière de tout l'univers. Et je voudrais vous présenter justement un truc pas Starving Gods, c'est plutôt American Gods. Donc les dieux américains de Neil Gaiman. Je vous avais présenté un livre coécrit l'année dernière, il y a deux semaines par Gaiman et Pratchett. Bon présage. Maintenant c'est donc American Gods. Alors l'histoire c'est assez simple. Un type sort de prison. Il s'appelle Ombre et il doit aller à l'enterrement de sa femme qui est morte quand il était juste à sa libération. Et en fait, il va rencontrer un type qui s'appelle Voyageur, qui va l'embaucher et qui lui fait une offre qu'on ne peut pas refuser. Et Ombre, de ce fait, va se retrouver très très vite embringué dans une espèce de conflit mythologique qui oppose les dieux anciens et les dieux nouveaux. Et là, on est de nouveau dans ce que je vous racontais en tout début d'émission, sur ce conflit en fait entre les différentes croyances qui engendrent leurs propres objets. Et donc, que deviennent les vieux dieux quand tout d'un coup tout le monde croit à Internet, à la télévision et à ce genre de choses? Et est-ce que toutes ces croyances n'engendrent pas des êtres qui eux-mêmes vont essayer de prendre la place des anciens? Voilà, donc... C'est Gaiman, quoi. Donc il écrit bien, c'est entraînant, ça se lit bien. Je vous recommande aussi.
Sur Internet, on peut trouver une vidéo où Neil Gaiman parle avec N.K. Jemisin pendant le confinement, par écran interposé, et ils abordent ce sujet-là, justement, entre les villes et les dieux incarnés. We'll be right back. Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Donc toujours l'émission Jeudi Noir. Je vais vous présenter un bouquin de Samuel R. Delany. J'avais déjà parlé, je crois, de l'intersection Einstein, il me semble, où c'était notre invité qui avait parlé de ceci. Donc là, c'est Babel 17. Et là, on vient d'écouter le groupe qui s'appelle Babel 17, avec le morceau New Age, d'ailleurs. Donc Samuel Delany, Babel 17, c'est assez original, encore de la science-fiction. Et là, on suit le voyage de Raidra Wong. C'est une poétesse, et cette poétesse est engagée par le gouvernement de je ne sais quelle de la Terre pour être capitaine d'un vaisseau spatial qui s'appelle le Rimbaud. Hein, poétesse, Rimbaud, tout ça. Et elle est recrutée parce qu'il y a des codes, un message codé qui n'arrête pas d'être envoyé quand la Terre se fait attaquer. C'est des attaques aliens, extraterrestres, et ils ne savent pas ce que ça veut dire que ces messages, et ça a l'air très très important. Donc c'est un bouquin, comme tous les bouquins de Delany, complètement inattendu. Et on a du fantastique dedans. Le personnel du vaisseau, par exemple, l'équipage s'appelle Œil, Nez et Oreille. Ce sont leurs postes pour conduire les vaisseaux, avec des pouvoirs psychiques. Ils vont recruter chez les fantômes l'équipage. Donc suivez tout ça, où la linguistique est une arme de science-fiction. Samuel Delany, Babel 17.
Et oui, déjà de retour, on avait pris un morceau de Sore Throat, 20 secondes. Let's go Buckingham Kill Queen. Donc, et c'est pour parler des Anglais, donc chaque fois qu'on parle des Anglais, on parle de la reine, voilà, c'est normal. Et le titre du bouquin, enfin l'auteur c'est Daniel O'Malley, et le titre c'est Au service surnaturel de Sa Majesté. Donc, premier chapitre, imaginez, voilà, vous réveillez à Londres, dans un parc, il fait nuit, vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne savez pas ce que vous faites là, et il y a une dizaine de cadavres autour de vous. Et vous avez deux yeux au beurre noir, vous souffrez, vous avez un mauvais goût dans la bouche. Vous trouvez une lettre dans votre veste, et cette lettre, et c'est vous qui vous dit « tu es témoin et on a effacé ta mémoire ». Voilà, ça commence comme ça. Et donc par un personnage qui est complètement paumé, et qui va essayer de découvrir qui elle était, qu'est-ce qu'elle faisait, et pourquoi elle était dans cette situation-là. Alors ça va impliquer tout un tas de choses super intéressantes, une agence gouvernementale secrète, des pouvoirs paranormaux et des complots. Voilà, donc tout ça en Angleterre. Donc ça se lit très bien. Il y a pour l'instant deux volumes, il paraît que l'auteur est en train de travailler sur un troisième. Si vous aimez les choses un petit peu fantastiques, un peu foutraque, allez lire ça, ça vous détendra, c'est une bonne lecture d'été.
Endroit des plus terrifiants pour un enfant tel que moi. Lieu privilégié à en croire tous les bourgeois. C'est la peur, la haine qui se mêle et se déchaîne. La peur, la haine, la pire celle de soi-même. Née du mauvais côté, tu le sais pas mais tu le ressens. De sable à bout de papier, tend à reproduire les camps. L'endroit te repousse comme un vent des plus violents. Et rien ne s'arrange en grandissant, le contraire serait étonnant. La peur, la haine, la pire celle de soi-même. Une pièce de l'engrenage qui te conduit à la chaîne. Le symbole de l'échec et du mensonge égalitaire. Le précaré des maîtres que l'on brûle quand ça pète, ces allées de titres à t'en faire tourner la tête, ces pages imprimées que l'on déteste sans connaître, ces milliers d'auteurs souvent absents au HLM, la sortie familiale que je n'ai pas fait le week-end, là où les intellos se sentent complètement à l'aise, l'objet des moqueries de la part des gosses de prolétaires, l'endroit désiré là-bas à l'autre bout de la terre par ceux qui bossent dans les champs privés de tout système scolaire, un apprentissage, une culture à part entière, des codes à maîtriser qui pour nous sont très peu clairs, comme dans À qui la faute, le tout est son contraire, et selon les références en ce qui aliène ou libère.
Ouais. Radio Libertaire 89.4, toujours Jeudi Noir, encore un nouveau bouquin. On vient d'écouter un excellent morceau de Lavermine qui s'appelle La Bibliothèque et qui illustre un petit peu mon attitude par rapport au pitch de ce bouquin au départ. Je pensais que... Donc c'est La mer sans étoiles de Erin Morgenstern, une autrice américaine encore, canadienne ou américaine, enfin nord-américaine en tout cas. La mer sans étoiles et donc la bibliothèque, ce morceau qu'on vient d'écouter parle un petit peu des inégalités devant les livres, où les livres peuvent faire peur et peuvent aussi être un marqueur social qui incite à la haine du livre, hein, tout simplement. Et ce bouquin là le pitch, ça parlait beaucoup du la bibliothèque et de la mystique du livre et l'objet livre, et on va être dans cet univers avec les histoires enchanteresses, non. Le genre de truc qui me gave. Et en fait, je suis tombé sur un bouquin qui n'était pas du tout dans cet esprit-là. Alors effectivement, ça commence dans une bibliothèque à la fac. C'est le héros, Zachary, qui tombe sur un bouquin où il n'y a pas de titre, pas d'auteur. Et sauf que dedans, ça raconte un passage de sa vie, de son enfance. Mais exactement ce qui s'est passé dans son enfance. À partir de là, il part dans une enquête. Il y a des portes secrètes, des sociétés secrètes, un labyrinthe sous la terre, où les bouquins sont certes présents, mais c'est pas forcément une ode à la lecture, à l'écriture, mais plutôt au fait de raconter des histoires. Voilà, c'est plus sur les histoires, ce qu'elles racontent, ce qu'elles disent de nous. Et puis, surtout, les personnages sont hyper sympathiques. Déjà, avec un héros mec homo, c'est assez rare. Et il en parle dans l'histoire et ça fait partie de ses amours. Les étudiants et étudiantes qu'on peut croiser, qui sont canadiens, canadiennes, sont assez réalistes. On dirait, c'est écrit par une personne assez jeune, quoi. Donc, on n'est pas dans les gros clichés. Voilà, un bouquin que je vous recommande. Je suis plongé dedans et j'ai plongé dedans jusqu'au bout, quoi. Erin Morgenstern. La mer sans étoiles.
Domus aurea, federis arca, refugium peccatorum, consolatris afflictorum, auxilium christianorum, regina angelorum.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire, c'est Jeudi Noir qui se poursuit. Et je voudrais vous... Alors vous venez d'entendre un morceau de Cortatu, un groupe basque des années 80-90, c'était la Familia Iscariote. Donc je voudrais vous parler d'un auteur qui est un peu connu en France, qui a été peu traduit, mais quand même on trouve des choses. Il se nomme James Blaylock, et c'est un des inventeurs, avec deux trois autres personnes, du genre steampunk. Le steampunk, c'est une espèce de réalité alternative dans laquelle on n'a pas, au 19e siècle, abandonné l'énergie tirée de la machine à vapeur, on n'est pas passé à l'électricité. Et donc il y a tout un tas de choses qui se sont développées, mais uniquement à partir de la vapeur. Mais alors là, c'est pas de... Je vous en parle, mais pour vous situer un petit peu Blaylock, mais le bouquin dont je vais vous parler n'a rien à voir avec le steampunk, évidemment. Il s'intitule Le Dernier Denier. donc comme les deniers qu'on a donnés à Judas pour avoir livré le Christ. Et c'est un livre assez étonnant, assez étrange, assez drôle, un peu foutraque. Mais si jamais vous voulez, et ça vous interroge, vous voulez découvrir le lien secret qui existe entre la façon dont on se verse des céréales, le lait en premier ou les céréales en premier, comment dire, les animaux étranges qui vivent sous votre maison, comme les belettes ou autres trucs bichouettes, comment dire, une tante à moitié grabataire et un oncle à moitié sénile et la fin du monde et le Léviathan. Tout est logique. Je vous conseille de lire Le Dernier Denier de James Blaylock. Vous verrez qu'en fait, il y a un rapport entre ces trucs-là. Et vive le Ragondin.
Jeudi noir sur Radio Libertaire 89.4, toujours la radio de la Fédération, toujours anarchiste et toujours sans Dieu et toujours sans publicité et sans maître et tout. Je vais peut-être encore spoiler, je suis désolé parce que là, c'est dur de parler de littérature sans spoiler. Michel arrive très bien, mais j'ai plus de mal. Alors un dernier bouquin, allez, pour la route. C'est un bouquin de Theodore Sturgeon, qui est connu pour quelques épisodes de Star Trek, mais c'est surtout un auteur américain qui était très admiré de Kurt Vonnegut Jr. par exemple, ou Samuel Delany dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, son bouquin, c'est pas Le Cristal qui songe qui est le plus connu. Là, je vais vous parler des Plus qu'humains, qui a été publié en 1953. Le début, le personnage du début, c'est un idiot comme un idiot du village, quoi. Voilà. Et puis il fait des rencontres, des enfants, des jumeaux, jumelles, un bébé, peut-être trisomique, on ne sait pas. Enfin, des gens qui sont un petit peu en marge de la société. Et on ne sait pas pourquoi trop ils se rencontrent, mais tout les amène à se rencontrer. Et là, c'est le rapport avec le morceau que je viens de vous passer de Nervous Gender, qui s'appelait Gestalt, puisque rapidement, on va vous parler de la Gestalt. Alors, qu'est-ce que c'est que la Gestalt, hein? C'est la forme. Ça a été mal traduit en français comme théorie de la forme, psychologie de la forme, nanana, il y a eu plusieurs applications. En gros, c'est plusieurs éléments, quand on les réunit ensemble, ça fait quelque chose de différent. Donc là, vous voyez un peu le truc, il y a différents personnages réunis. Là, je ne vous spoile pas, mais en tout cas, la Gestalt est au centre de ce roman super étonnant de Sturgeon, comme tout ce que fait Sturgeon. J'en ai pas lu beaucoup, mais c'est comme Delany, c'est comme Vonnegut. On ne peut pas être insensible à cette littérature complètement à côté des normes qu'on peut avoir du fantastique ou de la science-fiction. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Et on va vous passer pour finir un morceau de Erase Errata, qui s'appelle Marathon, puisque on ne fait pas un marathon du livre, mais on va quand même passer un morceau qui s'appelle Marathon. On vous retrouve peut-être au mois d'août, si, peut-être une chance si on arrive à se retrouver sur Paris tous en même temps. Sinon, ça sera en septembre. Voilà, un dernier mot, Michel ?
Non.